L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Les médecins libéraux sont en grève depuis le 5 janvier dernier pour protester contre plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale adoptées avant Noël. Leurs revendications les plus médiatisées sont un budget de la sécurité sociale insuffisant, le contrôle accru des prescriptions d'arrêt de travail, une baisse du tarif de certains actes et une potentielle atteinte à la liberté d'installation des médecins. Samedi dernier, une manifestation a lieu à Paris et la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a proposé aux syndicats des médecins libéraux de les recevoir pour échanger sur leurs revendications. Au-delà de ces réclamations, ce mouvement lance un signal d'alarme, tant pour pointer un malaise au sein de la profession que pour montrer les difficultés d'accès aux soins pour les patients. Pour discuter de cette grève et pour comprendre les enjeux actuels du domaine de la santé, nous avons interrogé Céline Le Bihan, qui est médecin généraliste sur notre territoire.
On la retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Un lynx porté disparu dans le Haut-Bugey, retrouvé gravement blessé.
L'animal porté disparu et blessé a donc été retrouvé et pris en charge par le centre de sauvegarde Athéna, recherché depuis le week-end du 3-4 janvier dans le secteur de Béarn-Géovrécia et Nurieux-Vologna. Le lynx a finalement été capturé mercredi soir.
Contrairement aux premières hypothèses, il s'agit d'une femelle adulte extrêmement amaigrie. L'examen vétérinaire révèle de nombreuses blessures, 2 tirs illégaux, dont un ancien ayant entraîné la perte d'un œil, ainsi qu'un traumatisme récent compatible avec un jet de pierre. Ces petits, toujours recherchés, sont désormais en danger.
Le centre Athéna a déposé plainte pour perturbation intentionnelle et tentative de destruction d'une espèce protégée. Le lynx est une espèce strictement protégée à la fois au niveau européen par la directive Habitat et au niveau national. En France, le fait de blesser, tuer ou harceler un lynx constitue un délit pénal. Les auteurs encourent donc jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende conformément au code de l'environnement. Une protection renforcée au regard du statut fragile de l'espèce encore menacée sur le territoire est mise en place.
L'État débloque des fonds d'urgence pour soutenir les éleveurs bovins.
Annoncé le 19 décembre par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, cette aide vise les exploitations professionnelles situées en zone vaccinale qui n'ont pas été directement touchées par la dermatose nodulaire contagieuse mais qui subissent ses conséquences économiques.
En Auvergne-Rhône-Alpes, une enveloppe de 4 millions d'euros est mobilisée.
Oui, l'aide pourrait atteindre 4 500 euros par exploitation avec un montant calculé en fonction de la taille du troupeau, de la durée d'immobilisation liée aux zones réglementées et du type de production de lait ou de viande. Les exploitations concernées doivent être immatriculées, disposer de bovins enregistrés et avoir leur siège en zone vaccinale. Les demandes pourront être déposées sur la plateforme Démarche simplifiée, ouverte par les directions départementales des territoires jusqu'au 31 janvier 2026.
Un documentaire sur l'expérience de démocratie participative en Drôme.
Samedi 17 janvier, 18h30, à la salle des remparts de Val-Revermont, assistez à la soirée Ciné-Échange à partir du film La République de Saillant. Le documentaire de Dorine Brun et Sarah Jacquet retrace l'expérience d'une petite commune de la Drôme où une liste citoyenne est élue en 2014 avec un projet de démocratie participative. Le film questionne notamment la place des citoyens dans les décisions prises par leur commune. La soirée est organisée par le MRJC et l'entrée est gratuite.
L'un dans l'autre, l'interview.
Comment fonctionne le système de santé en France? Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de comprendre ce qui est remboursé ou non, de connaître les spécialistes proches de chez nous. Souvent, les portes d'entrée du monde de la santé sont les médecins généralistes. Nous avons donc interrogé Céline Le Bihan, qui est elle-même médecin généraliste. Avec elle, on aborde la grève en cours des médecins libéraux. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour commencer, on lui demande de définir certaines notions, et notamment, c'est qui les médecins libéraux?
Alors, les médecins libéraux, ils peuvent exercer en cabinet, en maison de santé, mais aussi en établissement, par exemple en clinique privée à but non lucratif ou à but lucratif. Le statut libéral, il repose sur le fait d'encaisser des actes des consultations, des actes chirurgicaux qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Alors, parmi les médecins libéraux, il y en a qui sont, suivant leur mode d'installation, en secteur 1, c'est-à-dire qu'ils facturent des actes qui sont entièrement remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires santé, ou sur les secteurs 2 et 3, où il peut y avoir des dépassements d'honoraires.
Et aujourd'hui, donc vous-même, vous êtes médecin généraliste. Quelles sont les conditions d'exercice pour un médecin généraliste ?
Alors, c'est une question vaste, parce que ça peut regrouper des conditions d'exercice financier, des conditions matérielles, et puis le contenu de la pratique. Le secteur 1 pour un médecin généraliste,
oui,
il permet de vivre tout à fait confortablement, parce qu'on a une rémunération à l'acte qui a été revalorisée récemment, plus des rémunérations forfaitaires qui régulièrement augmentent. Et donc globalement, l'exercice libéral, en médecine générale en tout cas, est confortable sur le versant financier. En revanche, pour ce qui concerne les conditions d'exercice, c'est quelque chose qui est différent, et notamment la problématique d'accès aux soins. C'est quelque chose qui retentit énormément sur la qualité et le sens de notre pratique, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. On est obligé de travailler avec d'autres professionnels autour de nous, des professionnels paramédicaux, des professionnels du second recours, des professionnels en établissement, et quand quelqu'un manque dans la chaîne, ça met vraiment en tension, en difficulté les usagers d'abord, et évidemment ça vide le sens de notre travail.
Pour en revenir sur l'aspect financier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire secteur 1 ?
Secteur 1, ça veut juste dire qu'on passe une convention avec la Sécurité sociale, qui nous permet que nos consultations soient prises en charge à 100%, donc par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. Moyennant quoi, on ne décide pas du montant de nos consultations, elles sont fixées de manière conventionnelle, de manière régulière, et elles vont globalement plutôt à la hausse avec le temps. Enfin, c'est même pas plutôt, elles vont à la hausse avec le temps. La contrepartie de cette convention qu'on signe avec la Sécu, avec des honoraires qui sont fixés, qu'on ne décide pas, c'est qu'il y a une partie de nos cotisations sociales qui sont prises en charge. Et puis surtout, nos patients peuvent se soigner avec nos prescriptions, quelles que soient nos prescriptions. Ça, c'est quand même un grand avantage par rapport à d'autres systèmes de santé européens ou à l'étranger. C'est-à-dire que ce système de conventionnement, en tout cas de partenariat avec l'État et avec les cotisants, c'est-à-dire avec tous les Français, ce partenariat avec les Français, nous permet, moyennant une rémunération fixe, de pouvoir soigner les gens sans se poser la question de combien coûtent nos soins.
Et alors, du coup, pour être très précis, aujourd'hui, une consultation secteur 1, ça coûte combien ?
Pour le patient, ce que va voir le patient, oui, c'est qu'il va faire il va payer 30 euros sa consultation.
D'accord.
30 euros, dont 9 euros qui sont pris en charge par sa complémentaire santé. Mais ce 30 euros-là, c'est difficile, il ne représente pas forcément grand-chose dans notre rémunération à nous, parce que on peut passer 5 minutes avec un patient s'il a juste un rhume et qu'en fait, il a surtout besoin de pouvoir se reposer chez lui pendant la journée où il est enrhumé, ou alors il peut avoir besoin d'un certificat pour pouvoir s'occuper de son enfant qui a la gastro. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rapide, et donc en fait, on va gagner, entre guillemets, ces 30 euros de chiffre, c'est pas du bénéfice, c'est du chiffre, pour un temps très court. Et puis, on peut avoir besoin de passer beaucoup de temps avec un patient, par exemple, quand on fait une annonce de cancer, par exemple, quand on soigne quelqu'un qui est en burn-out, ou quelqu'un qui a été victime de violences sexistes et sexuelles. Ça peut prendre un temps extrêmement long et mobiliser énormément de choses. Et on peut avoir besoin de faire du travail longtemps après la consultation, quand il faut coordonner tout un parcours de soins. Ça, c'est des choses que les patients ne voient pas forcément. Et là, pour le coup, 30 euros, ça ne représente rien par rapport à la quantité de travail qui peut être faite derrière. Et ce 30 euros, il ne représente rien non plus, parce que comme on a des rémunérations forfaitaires qui viennent le compléter, on ne peut pas imaginer que la consultation ne rapporte entre guillemets que 30 euros de chiffre, parce que les rémunérations forfaitaires, les patients ne les voient pas. En fait.
Ce que vous nous dites, effectivement, c'est que là, il y a une confrontation un peu de la quantification d'une consultation contre, effectivement, des soins qui sont en fait très diversifiés pour des médecins généralistes.
Exactement. Et pour notre exercice, en tout cas en tant que médecin généraliste, je trouve que le paiement à l'acte, à la consultation, c'est-à-dire le même prix pour des activités qui n'ont absolument rien à voir, ça devient un peu questionnable, voire beaucoup questionnable. C'est-à-dire que ce qu'il nous faudrait quand même, c'est juste qu'on puisse faire notre métier, notre travail, sans qu'on ait à découper, à rentabiliser, parfois à orienter notre pratique en fonction de choses plus ou moins rentables. Prendre le temps de déshabiller une personne âgée pour l'examiner de la tête aux pieds, c'est pas rentable. Et pourtant, ça doit être fait. Voilà. Prendre le temps d'écouter les gens, c'est pas rentable. Et pourtant, ça doit être fait. Donc, ça questionne vraiment sur le mode de rémunération au forfait à l'acte, mais même sur le statut. C'est-à-dire que la médecine libérale a l'avantage d'avoir une assise historique très importante, et la plupart des généralistes sont quand même en libéral, même si le salariat augmente. Mais ce n'est pas très pertinent, ce statut libéral, pour pouvoir répondre aux enjeux de santé publique, à l'augmentation des pathologies chroniques, au vieillissement de la population, à l'augmentation des cancers chez les jeunes, à la prise en charge des conséquences des violences sur les individus. Ce statut libéral, et puis surtout aux inégalités d'accès aux soins, ce statut libéral y questionne beaucoup.
Et pour en revenir sur le mouvement lancé depuis le 5 janvier, voici les revendications les plus médiatisées. Donc le budget de la sécurité sociale insuffisant, un contrôle accru des prescriptions d'arrêt de travail, une baisse de tarifs de certains actes et une potentielle atteinte à la liberté d'installation des médecins. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent peut-être sur la prescription des arrêts de travail? Alors on a entendu parler pas mal de choses, de quotas. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous vous êtes confronté?
Bah, j'ai trouvé ça assez ridicule comme proposition. Je pense que celui qui a fait la proposition s'est jamais cassé une jambe, parce qu'on peut pas réduire la durée du plâtre, en fait. Je pense que celui qui a pondu ça n'a pas non plus traversé de burn-out. Voilà. C'était assez ridicule, c'est pas grave. Je pense que le fond des choses est quand même beaucoup plus lourd, c'est-à-dire que cette enveloppe-là du plan de financement de la sécurité sociale, elle est critiquable dans tous les sens, mais elle est critiquable surtout sur son montant, parce que c'est un montant fixe qui permet de financer le système de santé libéral et le secteur public. Et cette enveloppe fixe, elle est de toute façon trop petite. Donc là où on peut descendre dans la rue, c'est quand on en est la négociation sur le financement, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit cette enveloppe globale. Une fois que cette enveloppe globale elle est définie et qu'elle est trop petite, ben on peut se bagarrer entre secteur privé et secteur public, on peut se bagarrer dans tous les sens entre spécialités. De toute façon, l'enveloppe est trop petite. Donc ce qu'on donne aux uns, il faudra bien le prendre aux autres, et ça ne va pas bien nous arranger en tant que libéraux si l'hôpital avec lequel on travaille meurt. Voilà, ça ne va pas bien nous arranger. Donc je pense qu'il faut aller... Au moment où on définit les enveloppes budgétaires, là, il faut se manifester. Ça vaudrait le coup de descendre dans la rue à ce moment-là. Il est question, là, clairement, de justice fiscale, en fait, et de justice sociale. C'est-à-dire que on peut descendre dans la rue pour aller questionner les 211 milliards d'euros qui sont distribués aux grandes entreprises. Le secteur sanitaire bénéficierait grandement d'une partie de cet argent-là. On peut descendre dans la rue pour la taxe Zuckman. On bénéficierait vraiment de cet argent-là. Donc plutôt que de se bagarrer avec une enveloppe trop petite, comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'enveloppe?
Ouais. Et j'allais vous poser aussi cette question. Est-ce que cette grève, alors au-delà effectivement de l'aspect budgétaire, c'est pas aussi le symptôme d'un système de santé en crise? Alors on peut se mettre à la fois du côté des médecins qui ont peut-être l'impression d'être pointés du doigt ou qui ont peut-être l'impression qu'on remet un peu en cause leur liberté d'exercice. Et puis on peut se mettre aussi du côté des patients où effectivement l'accès aux soins est de plus en plus difficile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi on peut l'appeler comme ça, une espèce de ras-le-bol un peu ambiant?
Oui, en fait, on est sur un système un peu hybride qui ne s'assume pas. C'est-à-dire que le soin, le système de santé repose sur une espèce de double standard, un secteur public et un secteur privé, dont une partie est financiarisée. C'est-à-dire où non seulement les praticiens gagnent de l'argent dont ils font ce qu'ils veulent, mais où des actionnaires réclament une rentabilité, notamment derrière des établissements de santé. Donc, ce double standard, il est un peu problématique parce que les missions de service public sont assumées par des acteurs privés, voire financiarisés. Et en même temps, le service public assure des missions que le secteur privé n'assume pas. La prise en charge de la grande précarité, par exemple, ça ne se fait pas spécialement de manière naturelle dans les établissements à but lucratif. Bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système qui est complètement public, donc il y a des inégalités d'accès aux soins, donc il y a des choses qui coûtent cher pour une pertinence qui est discutable. Et de l'autre côté, le service public, il ne bénéficie pas d'une entièreté de moyens, et donc il se délite. Et il se délite en termes d'accès, en termes de conditions d'accès, puis parfois en termes de qualité des soins. Alors, il faudrait pouvoir trancher en fait entre les deux, parce que là, on est dans une tension qui est assez insoutenable. Si on fait si on libéralise complètement, eh ben, on va se diriger vers un système genre les États-Unis. Alors, ce serait un peu crétin parce que leur système de santé leur coûte deux fois plus cher et ils ont une espérance de vie qui diminue. Bon, moi, je pense que c'est pas le bon chemin. Mais on pourrait décider aussi que le système de santé, c'est un bien public qui doit être porté par l'État comme la police est portée par l'État. Il n'y a pas de police privée.
Ça veut dire se diriger vers le salariat des médecins?
Mais moi, j'y verrais aucun inconvénient.
Ouais, parce que c'est vrai que, pour en revenir sur notre territoire, je crois qu'il y a des possibilités de salariat de médecin. Enfin, la ville a du mal à recruter. Vous comprenez aussi, peut-être, le fait que les médecins n'ont pas envie de se salarier? Qu'est-ce qui pourrait les refroidir?
En fait, c'est intéressant parce que on n'imaginerait pas, par exemple, un village supplié pour avoir une gendarmerie, en fait. La question ne se pose pas, puisque la gendarmerie est présente partout sur le territoire rural, en fait. On n'a pas à supplier, c'est un service public. Voilà. La justice est présente partout sur le territoire, il y a des tribunaux absolument partout, et on ne se demande pas si on va pouvoir attirer un juge quelque part, en fait. On a accès à la justice partout en France. Et quand on devient juge, quand on s'engage dans ses études et dans cette carrière-là, on sait que de toute façon, on ne va pas aller s'installer là où bon nous semble. On s'installe là où il y a des tribunaux, en fait. Je ne vois pas pourquoi, pour la santé, ce serait différent. Parce que tous les Français, partout, les Burgiens, les gens de la Creuse, les gens de l'Allier, cotisent et financent le système de santé par leur travail, en fait. Or, ils n'ont pas accès aux services. Et je trouve que c'est profondément injuste. Et là, on arrive quand même à des extrémités où, si on reste sur des mesures incitatives, de dire on espère très très fort que des gens viennent s'installer. Et on fait tout ce qu'il faut pour les accueillir le mieux du monde, en mettant beaucoup beaucoup d'argent sur la table, en leur faisant des conditions d'exercice les plus favorables possibles. Et on espère qu'ils viennent, on voit que ça ne fonctionne pas. Les inégalités d'accès aux soins sur le territoire s'aggravent avec le temps, avec uniquement des mesures incitatives. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être faire un choix. Et que ce choix, c'est que, à mon avis, je sais qu'il est partagé par fort peu de gens, mais je pense que ce choix devrait nous pousser à produire un système de santé égal, réparti et financé par la cotisation publique.
Et alors peut-être dernière question un peu plus ouverte, on aimerait peut-être avoir aussi votre sentiment, votre témoignage ou peut-être de vos confrères, de vos consoeurs. On a l'impression aussi que c'est tout de même difficile d'être médecin aujourd'hui. On a l'impression que les médecins sont sous pression, effectivement, parce qu'il y a de plus en plus de patients ou de moins en moins de médecins. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ça? On aimerait aussi avoir la vie des médecins.
C'est vrai que c'est pas facile. En fait, ce qui est pas facile, c'est surtout de voir les gens dans des états de santé dégradés et de pas avoir les moyens de les soigner. Ça, c'est vraiment très difficile. Quand les patients attendent, quand on attend super longtemps pour avoir accès à des soins de base, en fait, ça vide le sens de notre travail. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait, en ce moment.
On remercie Céline Le Bihan d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'infos locales.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Bonne semaine à toutes et à tous.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.